France Musique.
Bonjour Philippe Cassard et on vous retrouve bien sûr samedi prochain.
Étonnez-moi, Benoît.
Pour cette émission de Noël, quel plus beau cadeau pouvais-je vous offrir qu'un moment avec Gabriel Baquier, monstre sacré de l'opéra français, toujours plein de verve et d'humour à 90 ans passés. Il sera là dans quelques minutes pour nous parler d'opéra, d'opérette, de chansons et de la vie en général. Gabriel Baquier qui coule aujourd'hui des jours paisibles en Normandie et ce 24 décembre notre Père Noël musical. Espérons qu'il ne restera pas coincé dans la cheminée, contrairement à Saint-Nicolas dans cette chanson traditionnelle.
Santa Claus got stuck in my chimney. Boo, boo, poor me.
Santa Claus got stuck in my chimney. Stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here.
Please do, 'cause Daddy made a brand new chimney
just for you this year.
Why, just last Christmas Eve she waited up for Santa to drop by.
But I nearly missed him, and here's the reason why. Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here, 'cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Santa Claus, come on down the chimney, please come back this year.
Et vous avez reconnu bien sûr la voix d'Ella Fitzgerald ici avec l'orchestre de Ray Brown. C'était à New York le 26 septembre 1950 pour un enregistrement d'une série de chansons de Noël. Ici donc Santa Claus got stuck in my chimney. Santa Claus est coincé dans la cheminée. Santa Claus, vous savez, c'est Saint-Nicolas, un proche cousin de notre Père Noël.
Thank you.
La grande valse d'Iseline, ballet d'André, messager par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Louis Fourestier. Je vous ai d'ailleurs mis de côté quelques autres belles valses en cette semaine de fête pour la fin de notre émission. Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec mon invité.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Un invité que je suis toujours très heureux de retrouver, car je dois le dire, c'est un familier de ce micro, mais ce très grand artiste du chant est aussi un merveilleux interlocuteur. Il vit aujourd'hui au calme de la campagne. Il a bien voulu quand même être avec nous aujourd'hui pour évoquer ensemble un certain nombre de souvenirs. J'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Baquier.
La petite Suzanne dernièrement disait à son amant: ah, ce que je m'embête, je n'aime plus l'auto, je n'aime plus les chevaux, je veux quelque chose de nouveau. Il lui répond: mon amour, j'ai pour toi l'autre jour fait une emplette, c'est quelque chose de vraiment chouette que j'ai acheté à Monsieur Vouet. Ah, viens, ah, viens, viens dans mon aéroplane. On dirait un oiseau, ça se tient en l'air comme il faut. Ah, viens, ah, viens, viens ma petite Suzanne. Tu seras folle mon coco quand t'auras vu mon petit oiseau. Elle se décide sans retard, lui débraye et l'on part à toute vitesse, comme un éclair, les plats en l'air, filant un train en fer. À quelle hauteur monte-t-on, lui dit-elle. Il répond: ma chère maîtresse, avec une femme dans la nacelle, on peut monter au septième ciel. Ah, viens, ah, viens, viens dans mon aéroplane. Ça fait froid, ça fait chaud, ça met des frissons sous la peau. Ah, viens, ah, viens, viens, c'est si bon quand on plane, que tu ne voudras plus bientôt te passer mon petit oiseau. Tout marchait comme à plaisir quand il fit, je viens de sentir dans l'allumage plusieurs ratés, et j'ai le levier qui ne veut plus se redresser. Il doit rester, j'en ai peur, plus d'essence dans le moteur, et le plus sage serait de le rentrer dans son hangar. Mais Suzanne répond: oh, plus tard. Ah, viens, ah, viens, restons dans l'aéroplane. C'est si bon, c'est si doux, ah, laisse-le marcher jusqu'au bout. Ah, viens, ah, viens, et d'ailleurs, s'il reste en panne, j'ai ce qu'il faut, mon coco, pour garer ton petit oiseau.
Bonjour Gabriel.
Ça fait fort, hein.
Ça fait fort. Vous avez toujours aimé les chansons grivoises, j'ai l'impression.
Disons qu'elles sont plutôt gaillardes.
Gaillardes. Ah bon,
oui,
c'est pas pareil.
Grivoises, pas jusque-là, mais gaillardes, bien senties. Ces chansons-là, à cette époque-là, on ne prononçait pas jamais les mots.
Jamais de gros mots.
N'est-ce pas, qui rendent d'ailleurs la chose tout à fait vulgaire.
Absolument.
Là, il s'agit d'aéroplanes, il s'agit de choses comme ça, il s'agit de manches à balai, il s'agit de tout ce que tu veux, mais jamais le truc.
Il faut préciser que c'est d'ailleurs une chanson de Fraxon et Christinet qui date de 1908, oui. Hein, Mon aéroplane. Voilà. Voilà. Vous chantiez, oui, déjà ce genre de choses quand vous étiez étudiant au conservatoire avec des grands professeurs de chant?
Non, parce que là j'étais sérieux.
Ah bon, d'accord.
C'est après que je suis devenu goguenard.
Vous avez eu vos années sérieuses, donc, Gabriel, on ne le croirait pas. Hein.
Mais c'est-à-dire qu'en conservatoire, j'avais des gens à qui je devais le respect.
Ouais.
Et je n'osais pas m'aventurer. J'avais gardé une timidité qui datait de l'enfance.
Et en même temps, on a l'impression que vous qui avez fait une si grande carrière dans des rôles les plus graves à l'opéra, justement, vous avez quand même toujours gardé le goût de la chanson, de la légèreté, de l'opérette. Ça vous a jamais quitté dans toute votre vie?
Jamais, parce que il est évident que j'ai commencé par ça.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai commencé par l'opérette, parce qu'il fallait que je fournisse à ce moment-là pour gagner ma vie. J'avais trouvé un impresario qui m'avait chargé de chanter une opérette par semaine, nouvelle.
Oui, carrément.
Je ne le connaissais pas. Hein. Il fallait que je fasse mon répertoire. Donc, chaque semaine, je chantais une nouvelle opérette. J'aime tant à dire que les anciens qui jouaient avec moi, ils m'ont fait tomber dans le panneau plusieurs fois, parce que eux, ils avaient ça avec un rodage incroyable. Et moi, ils me disaient pas le texte que j'avais appris, qui était écrit. Je me trouvais toujours un peu marrant, quoi. Il faut bien le dire. Et c'est une école, finalement, que j'ai retenue et qui m'a servi beaucoup par après.
Vous avez chanté, Gabriel Baquier, vous avez chanté les cloches de Corneville, par exemple?
Par exemple.
Oui.
Les cloches de Corneville, j'en ai vendu des tonnes à la monnaie quand j'étais en saison.
Vous devez y penser souvent dans votre nouvelle vie, maintenant que vous êtes installé en Normandie?
Oui, de temps en temps, oui.
Le
mais
bon
enfin,
cidre.
Je ne suis jamais passé encore à Corneville. Mais par curiosité, je vais quand même y aller, me rendre compte de ce que c'est.
Voilà, exactement. Vous avez quitté, il faut le dire aux auditeurs, vous avez quitté il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, votre midi natal où vous étiez retourné à Pézenas pour finalement choisir le vent, les embruns de la Normandie.
Ça fait 2 ans que je suis là. Je trouve que la basse Normandie, mais elle ne s'appelle plus comme ça.
Là, c'est le Cotentin.
De toute façon, la Manche, le Cotentin en général, mais la Manche en particulier, change 3 ou 4 fois de saison dans la même journée.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai, c'est très
parce
joli.
Parce qu'on a chaud, puis on a frais tout d'un coup, puis le vent change de côté, et ainsi de suite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans le fond, maintenant, j'y suis habitué. Et si je devais m'en aller, ça me manquerait. Voilà, c'est tout.
Alors, mon cher Gabriel, merci en tout cas d'être une nouvelle fois avec nous dans cette émission. On va aller revisiter pour le plaisir des auditeurs quelques épisodes de votre vie. Et on va commencer par retourner un petit peu, justement, sur la côte méditerranéenne, dans votre enfance, à Béziers, avec le genre de disque 80 tours qui passait sur le phono familial.
Dans les ramures, dans les chenets, dans les sentiers, entendez-vous le doux murmure, le doux murmure. C'est la chanson des peupliers, c'est la chanson des peupliers. Le soir descend sur la colline, la lune monte vers le ciel, et les pois fleuris aux épines sont pleins de bruits harmonieux. Quelle est cette voix qui soupire, dont la brunotte éclate du jour, on dirait une immense lyre, préludant à des chants d'amour. Le vent souffle dans les ramures, dans les chenets, c'est la chanson des peupliers, c'est la chanson des peupliers.
1910. Merci Gabriel. Vous l'avez reconnu ?
Je comprends que je l'ai reconnu. Et d'autant que j'ai fait un disque là-dessus.
Oui.
Sur toutes les chansons à voix qu'on appelait autrefois.
On appelait j'ai ça fait comme ça. L'Angélus de la mer.
L'Angélus de la mer et tout ça, oui, oui. Tout un disque complet.
Ça veut dire quoi d'ailleurs, chanson à voix au fond ?
C'est de la chanson où on gueule un peu, quoi.
C'est ça. Et mais là, c'est un très grand artiste qui vous a marqué depuis votre plus tendre enfance, Jean Nauté.
Ah, c'est Nauté qui chantait ça. Alors là, évidemment, mon cher Benoît, je suis content que tu aies fait passer ça, parce que, évidemment, ça me rappelle ma jeunesse, ce que passait sur le front de mon père, puisque j'écoutais beaucoup Nauté, mais dans des extraits d'opéra. Je chantais. Quand nous étions à Valras plage,
ouais,
n'est-ce pas, où nous allions l'été, parce qu'il me fallait des bains de sable chaud, pareil, le toubib mollissant. Alors on louait une bicoque en bois à Valras plage. Et là, le soir, quand il n'y avait plus personne sur la plage, je me mettais sur les marches du casino et à tue-tête, face à la mer, je gueulais voici des roses blanches, toi qui les aimais tant, et c'est de suite.
Ah, donc vois, c'est une carrière qui a commencé
pour
très
toi,
tôt.
Pour toi, jolie maman. Oui, c'est de suite. Hein.
Alors, ouais, ça c'était dans les années, on va dire, 30. Est-ce que vous avez des souvenirs, Gabriel, par exemple, évoquant quelques moments de l'histoire de France, que vous avez connus, si j'ose dire, du Front populaire?
J'ai vu les gens partir en vacances,
ah oui,
pour la première fois des congés payés. Oui.
Et voilà.
Grâce à ça.
Grâce au Front, ouais, populaire. Mais sauf qu'à ce moment-là, vous-même, donc, ou du moins dans les années qui ont suivi, vous avez finalement décidé de devenir dessinateur pour les chemins de fer, ce qui n'était pas du tout la voie normale pour devenir chanteur d'opéra. Mais le premier hasard de la vie vous a conduit dans cette direction.
À Béziers, j'étais déjà tout jeune doué pour le dessin. Donc, j'avais pris des leçons avec Madame Mélé, dont nous étions plusieurs, hein, et Amalric, lui, un copain qui était là, lui a fait son chemin, justement, dans l'affiche, dans le dessin publicitaire. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais me spécialiser dans l'affiche. Et voilà que, puisque nous étions en occupation, le moment des chantiers de jeunesse est arrivé.
Voilà.
Et que j'aurais dû partir, je ne sais pas, couper dans les bois, faire je ne sais quoi, et quitte après, peut-être, à être pris pour aller en Allemagne. Tu vois, voilà.
Faire le STO.
Alors, mes,
oui,
parents ont voulu éviter ça. Et ils m'ont entraîné avec eux, ils se sont débrouillés pour que je fasse mes chantiers de jeunesse au chemin de fer.
Voilà, c'est comme ça que vous avez été employé des chemins de fer.
Et alors, j'y suis resté 4 ans, d'ailleurs, jusqu'à la fin de la guerre. Et... Après, à la fin, ils ont voulu me titulariser, ils m'ont fait passer un concours, et j'ai été nommé chef de gare à Seille.
Ah oui, chef de gare.
Un trou au-dessus de Bédarier où mon père allait pêcher les écrevisses. Et alors, il y a un train le matin qui monte et un train le soir qui descend, moitié marchandise, moitié voyageur. Et j'ai été nommé là tout seul, chef de gare. Et puis, pour continuer là-dessus, pendant que j'étais au chemin de fer, comme je chantais dans les noces et banquets, comme on dit, j'avais pris des leçons de chant avec Madame Bastard, qui était directrice et professeure de chant à l'école municipale à Béziers, donc à l'école de musique. Et bon, elle m'a fait travailler pendant le temps qui restait jusqu'à la libération. Et ensuite, elle a dit à mes parents, je pense que je peux présenter Gabriel à Paris au conservatoire, parce que ça en vaut la peine. Et mes parents ne s'y sont pas opposés. J'ai été reçu au conservatoire et j'ai laissé le dessin et la publicité de côté. Voilà comment je suis arrivé au chant.
Au chant. Alors, on va écouter tout de suite, cher Gabriel, juste une petite minute d'une autre artiste qui vous a marqué par les disques quand vous étiez petit et que vous avez d'ailleurs retrouvé ensuite, ah oui, au conservatoire.
Thank you.
Vous l'avez reconnu, j'imagine, cette artiste dans Othello, Gabriel Baquet, Madame Yvonne Gall.
Oui, et Yvonne Gall, je l'entendais avant ça. Je l'entendais donc dans le phonographe de mon père. Il y avait deux artistes, surtout. Il y avait Noté, un ténor wagnérien, je ne me souviens plus du nom, là, et Yvonne Gall.
C'était beau, d'ailleurs, cet extrait d'Othello.
J'ai connu Yvonne Gall très tôt, et rien ne présageait qu'un jour, elle deviendrait mon professeur. Je suis arrivé à Paris, j'ai été reçu, donc on m'a collé chez Rousseau, d'abord. Rousseau, qui était un baryton, qui avait chanté à l'Opéra Comique, et qui chantait un peu... comme ça, très pointu, très précieux, et tout ça. Alors, moi, je ne trouvais pas mon compte là-dedans, j'ai demandé à changer de classe. Et c'est là qu'on m'a passé chez Yvonne Gall. Voilà. Et Yvonne me disait, « Gabriel, vous devriez chanter clair et rond à la fois. » Il dit, « Mademoiselle, elle n'était pas mariée, elle n'a jamais été mariée, sauf à la colle avec Bucer. » Bon, mademoiselle, je lui dis, mais comment vous faites pour chanter clair et rond? Ça fait clair rond, d'ailleurs.
Ouais.
Écoute, vas-y, je vais te dire. Alors, non, c'est pas ça. Il faut garder une certaine voûte, une rondeur quand même. Bon, alors écoutez, je vais essayer de travailler. Vous pouvez me montrer un exemple? Oh non, moi je chante plus, du moins je peux pas. Très bien. Alors, à force de discuter, un jour, le foutre me prend et je suis au bistrot tous les jours. Et c'est Mademoiselle Gall qui vient au bistrot me trouver. « Gabriel, c'est à vous, j'aimerais vous entendre, vous faire travailler. Je viens, mademoiselle. Allez-y, vous prenez quelque chose avec moi ? Oh non, non, j'ai pas le temps. Alors, je m'en vais, n'est-ce pas ? Je vous attends. Oui, mademoiselle, je suis jamais arrivé. » Chaque fois, ça faisait le même système. Je rentrais à la classe, bonjour, tac, je foutais le grand bistrot, il fallait qu'on vienne me chercher. Voilà. Parce que comme je comprenais pas ce qu'elle me demandait, il valait mieux que je trouve tout seul. Et c'est ce que j'ai fait tout le long de ma carrière. Ensuite, je me suis forgé tout seul.
Tout seul. Il y a eu quand même, parmi ceux qui vous ont, j'ai envie de dire, encouragé, il y a une grande figure de la vie musicale de l'époque, c'était le directeur du conservatoire, Claude Delvincourt.
Alors, comme j'étais pas doué, mes collègues, mes copains à ce moment-là, c'était avec Depras, Michel Roux, Crespin, tous ces gens-là, sont sortis avant moi et étaient dans la même promotion que moi. Et le directeur m'appelle et me dit, mais comment ça se fait? Ça fait 4 ans que vous êtes là et on n'avait pas pu obtenir quoi que ce soit, ni en mélodie, ni en opéra. Alors, il me dit, écoutez, je viens d'avoir un contact avec le nouveau directeur de Nice, qui s'appelait Monsieur Pogel, et vous allez faire la saison qui va ouvrir en décembre avec lui. Ça vous donnera l'occasion d'avoir contact avec le public. Et comme il ferme fin mai, début juin, vous viendrez passer le concours fin juin au conservatoire et vous serez reçu. Je vous le garantis. C'est ce que je fais. J'ai passé le concours. C'est à ce moment-là, quand la saison a été finie à Nice, j'ai passé mes concours. Là-bas, j'ai obtenu tout. À ce moment-là, prix d'opéra comique et pour les mélodies.
Il faut ajouter, mon cher Gabriel, que dans toute cette période de l'apprentissage au conservatoire, etc., vous avez aussi gagné votre vie en chantant dans les cinémas, etc. Vous avez même un jour chanté avec, enfin, ou à côté, ou après, la grande Fréhel.
J'avais l'occasion de faire un petit concert, parce que je prenais un peu tout à ce moment-là. J'avais un enfant, déjà, il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'avais un petit concert dans le 13e, et qui je vois dans ce concert, évidemment, c'est encore très âgé déjà, Madame Fréhel, qui passait, et c'est comme ça que je fis sa connaissance. Voilà.
Voilà, mais quand même, c'est une grande dame.
J'ai pas chanté avec elle, mais nous étions dans le même compartiment.
Vous chantiez quoi dans les cinémas, vous?
Oh, je chantais des chansons un peu inconnues, ce que je chantais au cabaret d'ailleurs. J'étais tombé sur un petit compositeur qui profitait de moi pour se faire connaître avec ses chansons qui m'avaient passé.
Et vous chantiez aussi Chevalier, Fernandel, toutes les vedettes de l'époque ?
Non, pas du tout. Des chansons toujours à texte. Et puis je terminais par l'air du Barbier. Voilà, pour faire voir que j'avais de la voix, n'est-ce pas ? J'envoyais l'air de Figaro. Et on me disait, mais pourquoi vous n'êtes pas à l'Opéra Comique ? Si vous êtes capable de me faire entrer, moi je veux bien, hein, mais pour le moment, je n'y suis pas. Je faisais 15 jours comme ça au cabaret, qui s'appelait Chez ma cousine, il existe toujours, c'est sur la place du Tertre. Et dans les cinémas, je chantais soit au Gaumont, Palace, avec l'orgue électrique, là, et puis au Paramount aussi, et puis dans les petits cinémas de quartier.
On va reparler, Gabriel, bien sûr, de l'opérette et de l'opéra comique. Et justement, j'ai un enregistrement magnifique, je dois dire. Je ne sais pas si ça a été réédité, mais Le Chant du Désert, chanté par vous, l'opérette américaine, c'est une pure merveille. C'est le jeune Bacquier dans toute sa splendeur.
On ne voit pas dans les cieux d'étoiles comme ses yeux et vivre près d'elle. Voilà mon seul vœu. Nul autre dans l'avenir ne pourrait pas parvenir à chasser sa tresse de mon souvenir. Je ne veux que son amour.
Magnifique enregistrement du Chant du Désert, l'opérette américaine de Romberg en version française, Gabriel Bacquier. C'était à l'époque donc où vous enregistriez beaucoup d'airs d'opérette chez Decca.
Exactement. Et je suis resté dans la maison de Decca par la suite parce que quand j'ai commencé à enregistrer pour l'opéra, j'ai fait la connaissance de John Sutherland qui, elle, était en exclusivité chez Decca. Et elle m'a gardé avec elle pour que j'enregistre le plus de choses possible. Quand elle avait un enregistrement, j'enregistrais automatiquement avec John
Sutherland. Avec elle. Ah oui, c'est ça. Mais vous aviez d'abord fait, donc, chez Decca, beaucoup, beaucoup d'opérettes, quoi.
J'avais fait beaucoup d'opérettes quand j'étais à l'Opéra Comique. À ce moment-là, je sais pas, bon, ça s'est trouvé comme ça. Ils sont venus, ils m'ont gardé, donc, ils ont su que j'étais à l'Opéra Comique. Et ils m'ont demandé d'enregistrer toute une série d'opérettes, voilà. Et c'était Monsieur Lehmann qui, à ce moment-là, était directeur du Châtelet.
Maurice Lehmann.
Et ce disque de Valse de Vienne a été vendu pendant qu'on jouait Valse de Vienne, justement, au Châtelet. Et avec des artistes qui n'étaient pas de la distribution.
Ah oui, c'est ça. Vous l'avez jamais fait sur scène, en fait.
Non. J'ai fait beaucoup d'opérettes, énormément d'opérettes à la Monnaie.
Oui.
Des choses qu'on n'entend plus, d'ailleurs. C'est formidable. Comme Hans, le joueur de flûte.
Très joli.
Le grand Mogol. Si j'étais roi. Miss Elliot. Des choses comme ça.
Voilà, ça c'était avant que vous entriez donc dans la troupe de l'Opéra Comique, ces années à la troupe de la Monnaie de Bruxelles, vraiment beaucoup d'opérettes.
Exact.
Et c'est peut-être à Bruxelles aussi, d'ailleurs, que vous avez pris le goût de la troupe, justement.
Exactement. Cette ambiance familiale. Des copains que quelquefois on se tirait dans les pattes, mais enfin c'était pas très grave.
Ouais.
Mais le côté familial était là, tout le monde se connaissait. Rogatchevski, le directeur, faisait en sorte, d'ailleurs avec sa femme, que nous nous connaissions bien, que nous puissions être réunis souvent comme ça. Et ce coup de la troupe méritait, grâce à tout ça, le travail bien fait aussi, parce qu'une maison qui a une troupe s'attache au travail bien fait et aux traditions de la maison. Voilà, et j'ai retrouvé ça à l'Opéra Comique, pareil.
Comment est-ce que vous êtes passé de la Monnaie à la salle Favart? Pourquoi? Comment ça s'est passé?
Grâce à Madame Martha Angelici. Elle est venue chanter à la Monnaie avec moi, les Pêcheurs de Perles. Et son mari venait d'être nommé directeur à l'Opéra Comique. Elle me dit, vous avez un contrat de combien de temps à la Monnaie? Je lui dis, je termine cette année, ça fait mes 3 ans. Alors, n'en re-signez pas d'autres, parce que vous allez venir passer une audition devant mon mari, puis devant M. Hirsch, qui était directeur général à ce moment-là, et je vous garantis que vous serez engagé, vous aurez un contrat. Et c'est comme ça que j'ai fait ma dernière représentation à la Monnaie avec Monsieur Beaucaire, pour le gala de la presse, et que de suite après, j'ai fait ça d'ailleurs en début de saison à la Monnaie. Et ensuite, je suis parti au mois d'octobre, quoi, honorer mon engagement à l'Opéra Comique. Voilà.
Il paraît d'ailleurs que le roi Baudouin avait beaucoup apprécié votre Monsieur Beaucaire, Gabriel Baquier.
Ah, c'est possible, c'est possible. Je lui ai serré la pince, comme on dit, n'est-ce pas? J'ai été présenté à lui, mais j'avais plus de contact avec la reine-mère.
Ah bon? Ah oui, qui était la grande amie des arts et de Cocteau et de tous les artistes.
Exactement. Et alors, elle a même pris, parce qu'on avait fait une création qui s'appelait Les Bals de Paris. Et j'avais un petit singe sur l'épaule. Comme dans Hans le joueur de la flûte, j'avais des souris blanches qui se promenaient sur ma plume, la plume de mon chapeau. N'est-ce pas? Et puis là, c'était un petit singe. Eh bien, mon cher, la reine mère a pris le petit singe dans ses bras.
Très jolie, la reine Elisabeth de Belgique.
Elle a caressé le petit singe. Et moi, je me suis senti caressé par la même occasion.
Paganini de Franz Lehár, encore un de ses enregistrements d'Eka. Quel séducteur, hein, Gabriel Baquier, quelle voix merveilleuse.
Oh, mon cher Benoît, je ne pensais pas à vous encore à ce moment-là, mais aujourd'hui, alors. Je vous le dédie.
Merci. Non, vraiment, c'est un très très beau document, à rééditer également, hein, d'urgence, tous ces disques d'Eka d'opérette enregistrés par le jeune Gabriel Baquier, donc entré dans la troupe de l'Opéra Comique en 1956. Troupe où vous avez été encore très très heureux, même si votre voix, au fond, était largement aussi faite, on l'a vu par la suite, pour les grands rôles de l'opéra que pour les rôles de l'opéra comique.
C'est-à-dire que oui, une voix, quand on travaille comme moi, c'est-à-dire que j'arrêtais pas quand même, je vais pas me plaindre de travailler, on travaille aussi un petit peu techniquement pour se parfaire. Et la maturité vocale vient aussi avec la maturité du corps. Ouais. Et comme dans le chant d'opéra, c'est le corps qui travaille. Ça n'est pas la voix, c'est tout le corps. C'est la formation musculaire du support et la projection du son. Ce support du souffle et projection du son. Et tout ça, ça va en même temps. Mmh. Et on arrive à avoir une technique qui est propre. Il y a une technique de base comme dans tout. Mais on arrive à s'adapter et à trouver une technique personnelle qui vous permet d'avancer. Voilà, et qui va avec la maturité ensemble de l'homme, du corps, jusqu'à 40 ans. Ça fait ça jusqu'à 40 ans. En 40 ans, on se trouve en pleine forme. Et on peut chanter comme ça, sur la même lancée, jusqu'à 60 ans, à peu près. Après, bon, allez, une bonne vingtaine d'années, disons.
Mais il y avait une différence, disons, d'esprit, d'ambiance entre les deux maisons jumelles, parce que c'était à peu près les mêmes chanteurs qui passaient d'une scène à l'autre, quand même, entre Garnier et Favart.
Il y en avait beaucoup, finalement, comme moi, qui étaient à l'opéra comique et puis qui faisaient beaucoup de remplacements à l'opéra.
Ouais.
Et à force d'avoir des remplacements à l'opéra, j'ai demandé un jour, mais je ne pourrais pas faire partie de la troupe de l'opéra. On m'a dit, pas de problème. Alors c'est comme ça que je suis rentré définitivement à l'opéra. Mais autrement, on est venu me chercher beaucoup pendant que j'étais... Et ça me gênait un petit peu parce que j'avais quand même un répertoire un peu plus léger à l'opéra comique. Et on, quand même, à l'opéra, on me faisait chanter des Rigoletto, des choses comme ça.
Ouais.
Comprenez ? Donc, c'est pas tout à fait la même embouchure, mais bon, c'est comme ça peut-être aussi que ma voix s'est formée, aussi.
Exactement.
Qui sait ? Oui.
Vous avez dit aussi, Gabriel Baquier, que vous étiez un comédien chantant, ou un comédien chanteur, et pas simplement un chanteur.
C'est malheureux à dire, mais celui qui est uniquement chanteur,
ouais.
Ça veut dire d'abord qu'il n'interprète pas,
ouais.
Et deuxièmement, qu'il laisse tomber complètement le côté musical. Si on ne respecte pas la partition d'un compositeur, si musicalement on n'apporte pas ce que j'appelle la musique, et pas le solfège, la musique et une certaine compréhension des personnages, ouais. Que l'on adapte avec sa propre personnalité. Pour ça, il faut quand même lire certains livres, puisque les personnages que le compositeur a, sur lesquels il a écrit, se sert d'un livret, se sert d'un roman, se sert d'une chose historique, se sert de tout un tas de choses. Il construit sa musique, le compositeur, en fonction, c'est-à-dire qu'il met des couleurs, des rythmes, et ainsi de suite, en fonction de ce qu'a été ce personnage, à moins que l'on fasse des choses, n'est-ce pas, qui soient des contes ou des choses comme ça, qui n'ont pas en réalité de vraies définitions, caractères, voilà, on peut modifier tout ça. L'opéra qui se retrouve souvent sur un support historique, là, il faut peut-être mettre le nez dans les livres et savoir ce qu'on veut en faire, savoir où on va, voilà. La situation, l'époque, ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'appelle un vrai chanteur.
Ouais,
c'est comme
sûr.
Une chanson à texte repose sur des vérités. Une chanson à texte. Mais quand on ne se sert pas de tout ça, on n'est qu'un chanteur qui se sert de la voix pour faire des notes et se saouler de son. on en connaît comme ça pas mal. Moi, je ne citerai pas de nom, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire à peu près.
Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà. Votre carrière donc internationale, si on peut dire, elle a démarré au début des années 60, notamment sous l'impulsion de Gabriel Dussurgé, d'Aix-en-Provence, de l'Opéra de Paris. Vous avez chanté avec tous les plus grands artistes de votre génération, à commencer par la Tebaldi dans la Tosca. Mais quand je parlais avec vous de vos plus grandes partenaires, celles que vous avez préférées, vous m'avez spontanément cité le nom de Jeanne Rhodes. C'est peut-être parce qu'elle était elle-même aussi, au fond, une comédienne autant qu'une chanteuse dans l'esprit.
Exactement. Ce qui comptait pour elle, non mais on s'en est rendu compte, ça n'était pas la position vocale ni quoi que ce soit, mais c'était une artiste complète.
Oui, oui, et très sympathique, voilà. Et très chaleureuse, on la regrette beaucoup et d'ailleurs.
Voilà. Et ce qui lui a permis d'ailleurs de faire beaucoup de créations, de choses comme ça, parce qu'elle était unique. Et je regrette de le dire, par rapport aux autres Carmen peut-être, mais elle était une Carmen formidable.
Oui, oui, la grande Carmen voilà. De l'Opéra de Paris, on peut dire d'ailleurs.
Voilà, elle était une Carmen formidable. Alors bon, j'ai beaucoup chanté avec des gens quand même importants, comme Caballé, comme Léontine Price, Arroyo... Lucia Pop, Berganza, Sutherland, on l'a dit, Cosotto, oui. Rita Streich, hein, dans Orphée. Mesplé, qui a beaucoup été connu aussi, avec laquelle nous avons fait beaucoup de choses ensemble, dont la création du dernier Sauvage de Menotti à l'Opéra Comique, et ainsi de suite. Alors bon, pour ne citer que ces femmes-là, mais après dans les hommes, il y en a toute une... Et Kaba Ivanska, j'oubliais Kaba Ivanska.
Voilà, on va peut-être en écouter une de ses partenaires avec vous tout de suite. Alors, on reste dans l'esprit un petit peu léger de cette émission. C'est la Berganza, très bonne comédienne, elle aussi d'ailleurs.
Et très bonne musicienne.
Et très bonne musicienne.
Très, très bonne musicienne. Et pardonnez-moi, j'ai oublié aussi ma copine Crespin.
Bien sûr, Régine Crespin. Teresa Berganza, vous l'avez connue quasiment à ses débuts, j'imagine, à Aix-en-Provence, non?
Elle, ça faisait, je crois, hein, il me semble, ouais. Ça faisait 3 ans qu'elle y venait quand je suis arrivé, moi, en 60.
Oui, d'accord.
Voilà. Avec Teresa Sich-Randall.
Et vous avez tout de suite sympathisé avec Berganza?
Il est difficile de le faire autrement, parce qu'elle me disait, Gabriel, ne me regarde pas comme ça, je vais retomber enceinte.
C'est assez drôle. Alors, on va vous retrouver ensemble avec aussi José Carreras dans un petit trio de La Péricole. Et on entend tout de suite d'abord Berganza, bonne comédienne aussi, qui nous dit les premières répliques.
Tu vas être libre, mon piquillo, tu vas être libre. Je garde sur moi assez d'or et de pierreries pour corrompre tous les geôliers du monde. À moi, geôlier, à moi.
Joli geôlier, à la belle Barbaroussaille, on dit quelquefois tataillée, mais moi jamais je ne la taille. Et tin 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 tin, sonnez mes clés soir et matin. Et tin 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 tin, chantez votre joyeux tintin. Et tin 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 tin, sonnez sonnez soir et matin. La nourriture, malgré mon air rébarbatif, je suis une bonne nature. Sonnez, sonnez,
sonnez, sonnez,
sonnez, sonnez,
sonnez, sonnez.
Je dirai plus, il est charmant.
Franc de bâton.
Et sémillant.
Il est charmant,
charmant, charmant.
Avec son trousseau qui sonne.
Sonne, 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 sonne,
cette Péricole dirigée par Michel Plasson, Gabriel Baquier, qui est d'ailleurs une des plus belles versions. Je ne sais pas si vous en gardez un bon souvenir de cet enregistrement, mais en tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à le réentendre.
Ah ben écoutez mon cher ami, tout ce qui concerne l'opérette, je monte aux cieux,
c'est vrai.
Je tape la tête au plafond, j'adore, et je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai commencé par là et ça me tient. Voilà.
Et oui, parce qu'on voit parfois des grands artistes lyriques, disons, de votre niveau, qui veulent plutôt laisser un peu au second plan cet aspect de leur carrière. Vous, pas du tout. Hein. Vous en avez pas honte du tout, loin de là.
Oh, pas du tout. C'est ce qui m'a formé.
C'est ce qui vous a formé. Gabriel Baquier, on évoquait tout à l'heure parmi vos premiers très grands rôles au début des années 60, celui de Scarpia à l'opéra. Vous aimez bien jouer les méchants, vous qui ne l'êtes pas du tout.
Eh ben voilà, vous venez de le dire. C'est parce que je ne le suis pas que j'aime jouer les méchants.
C'est vrai.
Là, je me défoule.
Il y a une jubilation particulière à être vraiment ce torsionnaire qu'est Scarpia sur une scène.
Mais parce que comme je n'aurai jamais l'opportunité de faire ou de me trouver dans cette situation dans la vie, oui. La scène me le permet.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est ça qui est formidable, non ?
Vous pourriez dire les rôles d'opéra dans lesquels vous vous êtes senti le plus vous-même, qui vous ressemblait le plus, où vous sentiez pleinement dans le personnage ?
Ouais, il y en a un en tout cas. Ouais. Don Giovanni.
Ah, le catalogue, le séducteur, vous aussi vous tenez un catalogue ?
Je ne tiens pas de catalogue parce que ça la fout moi, mais quand j'essaie de les retrouver, il y en a un paquet.
Don Giovanni, voilà le double lyrique donc, de Gabriel Baquier.
Et j'en oublie beaucoup.
Vous en oubliez beaucoup. Je précise que vous dites cela en présence de votre épouse qui est bienveillante et qui nous regarde en souriant, j'imagine.
Non, mais comme je lui ai raconté, elle s'en fiche maintenant. Elle sait ce que je vais dire à l'avance, alors c'est pas étonnant pour elle. Il n'y a pas de découverte.
Dans les méchants, j'en cite un autre qui vous a bien collé à la peau, si j'ose dire, c'est Iago.
Ça, j'ai eu vraiment, mais alors plaisir aussi, quand il est venu jouer ça pour la première fois, Domingo.
Justement, je vous ai demandé avant l'émission, c'est quoi votre plus grand souvenir musical sur une scène d'opéra ? Vous m'avez dit, c'est avec Domingo dans Othello à l'Opéra de Paris en 1976.
Exactement. D'abord, j'ai été surpris d'entendre Domingo dans cette forme. Et puis alors, ça lui colle à la peau. Il avait quelque chose de très beau sur lui. Un costume bleu superbe, comme une robe de chambre. Il était le contraire du gueulard dont on a parlé tout à l'heure. Il faisait ça avec une sincérité, un sentiment très retenu et vraiment intérieur. C'était vraiment... Je pouvais m'additionner, si je veux dire, sans être bouffé, sans être mangé par une voix. Je pouvais faire une harmonie avec lui, au lieu de faire une compétition. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, une musicalité et une interprétation.
Mais c'était aussi peut-être la présence de Scholti dans la fosse de l'opéra.
Peut-être, oui, ouais. Peut-être. Vous savez ce que j'ai répondu à Scholti ?
Non.
Parce qu'un jour, il s'est mis la baguette dans l'œil à Washington. C'est parce qu'il dirige très sec comme ça, avec la baguette toute droite en l'air. Et je ne m'en suis pas aperçu pendant mon air. Et paf, il s'est mis la baguette dans la case de sourcière. Et il s'est pissé le sang, c'est le premier violon qui a joué à sa place.
Ah oui ?
Évidemment. Et il me dit après, Gabriel... Excusez-moi, je vous ai gâché votre air. Bon, j'ai dit, non, maître, pas du tout, ne vous en faites pas parce que je ne vous regarde pas.
C'est bien, mais c'est pour ça que je crois que tout le monde vous aime aussi. C'est, voilà, le sens de la blague, le franc-parler, le naturel, quoi.
Et c'est vrai, parce que si monsieur le regarde, il me fout la danseuse Saint-Guy. Alors, c'est pas compliqué. Tellement il remue. Ah, c'est terrible.
On vous retrouve tout de suite, Gabriel Baquier, justement dans ce Othello avec Placido Domingo, Opéra de Paris, 1976.
Come on!
Gabriel Baquier, Placido Domingo, Georg Solti, c'est Othello à l'Opéra de Paris en 1976. Vous avez continué à entretenir des relations épisodiques avec certains grands chanteurs amis, comme par exemple Placido Domingo, Gabriel Baquier.
Ah oui, oui, bien sûr, quand nous en avions l'occasion, notamment. Ouais. Il m'est arrivé même de lui téléphoner un jour ou d'écrire, je ne sais pas pourquoi, avec Pavarotti aussi.
Oui.
Évidemment. Ah oui, bien sûr.
Les relations entre chanteurs d'opéra ne s'arrêtent pas forcément à la porte du théâtre.
Je suis heureux de ça, parce que quand ça se produit comme ça, bonjour, bonsoir, à bientôt, n'est-ce pas, que j'ai été très content. Et puis, on n'entend plus parler de personne.
Ouais.
N'est-ce pas ? Mais quand il y a une continuité, alors là, ça change. Ça change parce que ça veut dire qu'on s'apprécie entre hommes.
Bien sûr.
Vous comprenez ? C'est ça. Surtout, on apprécie l'homme, on apprécie le chanteur, et c'est justement l'interprète et le chanteur qui fait apprécier l'homme selon son comportement. C'est tout.
Bien sûr. On a évoqué Georg Solti, alors il vous foutait la danse de Saint-Guy, mais il y a un chef avec qui vous avez beaucoup enregistré, notamment l'opéra français, je ne sais pas si vous gênez aussi quand il battait la mesure devant vous, c'est Jesus Etcheverry.
Lui, il ne me gênait pas, il m'arrangeait. Parce que d'abord, je ne l'ai jamais vu battre la mesure d'une manière inconsidérée, c'est-à-dire à grands coups de baguette et ainsi de suite. Non, lui, quand ça n'allait pas, d'ailleurs, il y avait une faute dans le truc, il tournait la partition, il allait jusqu'à la dernière page, il dit « Ah non, c'est pas ça !» Il disait comme ça. Par contre, dans le disque que vous devez avoir sûrement, ouais, qui a été fait pour AZ et distribué par Universal maintenant,
bien sûr,
c'est lui qui dirige. C'était pendant que nous avons cette société où les chanteurs de l'Opéra de Paris enregistraient et montaient une société et nous enregistrions. Et c'était AZ qui avait fait ça.
C'est donc pour ça que Etcheverry a dirigé tellement d'airs avec les chanteurs de l'Opéra, alors.
Voilà. Et on a fait ça pendant 3 ans à peu près. Ça marchait très bien, hein. Ça marchait très très bien. Seulement le responsable de ça, c'est-à-dire le responsable administratif, tout ça, est parti avec la caisse.
Ah bon, ouais. D'accord, comme dans une opérette.
Ça s'est arrêté, évidemment. Ouais.
Gabriel Baquier, on ne peut pas tout raconter. Aujourd'hui, on évoque juste quelques souvenirs parmi d'autres. On a parlé d'opérette, on a parlé d'opéra comique, on a parlé d'opéra. Il faudrait bien qu'on parle un peu de mélodie aussi, parce que je sais que c'est un genre très cher à votre cœur depuis vos débuts. Et vous avez continué à en faire à l'époque où vous couriez toutes les grandes scènes lyriques du monde. Vous avez été obligé d'arrêter la mélodie.
Non, non, je n'ai pas arrêté. Mm-hmm. Ça vous enrichit, la mélodie, musicalement. Et puis, il y a toujours des textes extraordinaires dans la mélodie. Et puis, c'est un équilibre musical. Ouais. Je regrette. Moi, je sens ça comme ça. La mélodie m'a toujours servi, même dans l'opéra. Parce que, excusez-moi, dans l'opéra, il y a aussi beaucoup de moments mélodieux. Et on ne fait pas que gueuler dans l'opéra.
Non.
Donc, si de temps en temps on amène une phrase légato, bien chanté piano, dessoufflé, tout ça s'apprend dans la mélodie et on le transpose dans l'opéra. Pourquoi
exactement.
Pas, puisque les compositeurs l'ont même eux-mêmes écrit dans les partitions d'opéra, et Verdi le réclame sans arrêt, tout ça. Et pourquoi Verdi, vous prenez dans ses interprétations, surtout à la fin, avec les Othello, M. Morel et consorts, pourquoi? Parce qu'il pensait, il trouvait que c'était les chanteurs français qui, eux, chantaient et musicalement, et on trouvait des interprètes chez eux, de vrais interprètes, et il n'y avait pas que de la gueulante, quoi.
Ouais,
que le contrut, il n'y avait pas que ça qui comptait, vous comprenez? Voilà.
Il y avait aussi ce rapport du texte qui est si important dans la mélodie française. On va l'entendre tout de suite dans l'élégie de Massenet que vous avez enregistrée en 1961. Ça, c'était en 1961, Gabriel Baquet, avec au piano Jean Laforge, qu'on trouve dans beaucoup de vos enregistrements de mélodies.
Et qui a dit qu'un chanteur d'opéra ne pouvait pas chanter la mélodie? C'est un exemple. Bon, alors, vous voyez, ce que l'on peut mettre dans l'opéra, le legato, et les fortes piano, et ainsi de suite, ça s'appelle des soufflets.
Bon. Néanmoins, c'est vrai que beaucoup des grands interprètes de la mélodie française, je pense à vos aînés, à Souzet, à Panzera, à Morane, ont fait plus de mélodies que d'opéra finalement. Ils ont un peu consacré leur carrière à la mélodie, on a l'impression.
Ils ont eu raison, ouais. Parce que ils n'étaient pas des spécialistes d'opéra.
Ouais.
Vous comprenez? Donc, ils ont eu raison de faire la mélodie.
Ça, heureusement, ça a été réédité d'ailleurs chez Universal également, hein, dans un disque qui s'appelle De la mélodie à l'opérette, où on retrouve pas mal de vos mélodies, Gabriel Baquet. Et alors, on trouve aussi dans ce même disque Alors, est-ce que c'est une mélodie ou une chanson? Je ne sais pas, vous allez nous le dire. En tout cas, c'est très très joli. C'est un poème de Jacques Larue mis en musique par Maurice Yvain, le grand compositeur d'opérette. Et ça s'appelle Porquerolles. C'est vous qui m'avez fait découvrir cette chanson. C'est quoi? C'est une chanson ou une mélodie?
Non, c'est une mélodie. Et j'ai mis ça dans les chansons parce que j'ai trouvé que ça allait avec les chansons, n'est-ce pas? Parce que il y a un petit côté classique dans Porquerolles qui fait que on peut prendre la chanson au sérieux. Et c'est vrai que dans Porquerolles, tout en ayant l'accent du midi, c'est bien ajusté tout ça. Il y a une rigueur musicale, on ne peut rien mettre à côté. Hein. Il faut le faire comme c'est écrit.
Chaque couplet est écrit un peu différemment des autres. C'est très, très bien fait.
C'est très bien fait.
Avec toujours au piano Jean Laforge. Un mot peut-être de ce travail avec Jean Laforge, qui a été votre pianiste dans toutes ces mélodies.
Mais c'est-à-dire que finalement, j'ai eu beaucoup de pianistes. Mais c'est avec Jean Laforge que nous étions le plus en communion.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est très important.
Je peindrai mon bateau lundi. Folle est la brise, folle, folle. Mardi, douce la brise, douce, douce. J'ai mon courage qui s'émousse, que je ne le peindrai jeudi.
Porquerolles de Maurice Yvain, une petite merveille, Gabriel Baquet. Je ne sais pas si c'est votre tempérament que vous chantez, là, cette nonchalance du type qui n'arrive jamais à se mettre au travail tellement il est bien, au soleil, au bord de l'eau, etc.
Je suis tout le contraire.
Vous êtes tout le contraire. Vous avez quand même un point commun avec cette mélodie de Maurice Yvain, c'est qu'il est question toujours de peindre un tableau. Et je crois savoir que maintenant que vous ne chantez plus sur les scènes d'opéra, vous faites par contre toujours beaucoup de peinture.
J'ai toujours fait de la peinture, évidemment.
Vous n'avez jamais arrêté, c'est ça qu'il faut expliquer, oui.
Oui, non, j'ai toujours... Là, attention, depuis mon déménagement, j'ai arrêté au moins 2 ans. Mais je vais m'y remettre tout de suite, d'ailleurs, ça va aller avec la saison d'hiver, d'ailleurs, où je ne pouvais pas faire le guignol dehors chez moi. Voilà, alors je vais me remettre au tableau, et mon prochain tableau sera le portrait de Madame ma femme.
Ah, très bien. Sylvie Housenko, Baquier, sera donc votre prochain tableau. Mais vous avez toujours continué à peindre, même quand vous étiez en pleine activité lyrique, Gabriel.
Ah oui, surtout. Et quand j'étais à la Monnaie, c'est là que j'ai fait ce fameux tableau des pêcheurs de perles, le portrait de Zurga, qui est apparu sur une pochette de disque, d'ailleurs. Il y a des semaines, quand ça me prend, je fais 10 tableaux sans m'arrêter.
Vous sortez pour prendre les paysages sur le vif ou vous travaillez chez vous?
Alors, je vois un coin qui me plaît, je le photographie et je le fais chez moi. Parce que sur place, bon, c'est bien joli, mais enfin, il faut tout trimballer, la peinture, le chevalet, le machin, etc. J'apprécie souvent aussi le dessin, beaucoup le dessin, parce que ça, les croquis, Ça, on peut le faire dehors. Ouais. Par contre, parce qu'on part juste avec un carton en dessin, on a ça sur les genoux et on y va. Il n'y a que ça, vous comprenez ?
En tout cas, voilà la vie d'un homme sage. Après avoir fait une grande carrière mondiale sur toutes les scènes lyriques, vous êtes toujours actif. Je sais aussi que dans ces dernières années à Pézenas, vous avez animé aussi des académies de chant pour transmettre un peu de votre art et de votre savoir à des jeunes élèves. Ça, c'est terminé ? Vous avez encore des projets dans ce domaine ?
Très peu maintenant, parce que les élèves arrivent là en croyant qu'on va les faire forcer, parce que s'ils n'ont pas mal à la gorge, c'est qu'ils n'ont pas bien travaillé. On en est là. Hein. Et puis, il y a des fadas partout, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Et enfin, il y a beaucoup de déceptions dans les élèves. On peut leur dire 50 fois la même chose, c'est comme si on n'avait rien dit. Ah bon. Et ainsi de suite, ils ne travaillent pas avec la musique. Ils ne foutent rien dehors. Le vrai travail se fait en dehors de la leçon, par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce que l'élève veut obtenir s'il a un peu de conscience. N'est-ce pas ? Mais comme ils travaillent toujours plus ou moins en amateur et un mauvais amateur en plus, alors là, je préfère abandonner.
Merci, évidemment. En tout cas, Gabriel, voilà. D'avoir été avec nous ce matin. On va finir comme on a commencé, c'est-à-dire vraiment sur le mode de la légèreté, avec un extrait d'une opérette de Monsieur Moretti, ça s'appelle « Les artichauts ».
Ah, alors là, le texte, c'est que j'ai...
Vous les préférez froids ou chauds, vous, les artichauts ?
Oui, mais moi, je les aime froids.
Ah bon ?
Et puis, enfin, comme disait Coluche, c'est qu'après en avoir mangé, c'est là qu'il y en a le plus.
C'est vrai. Bon, on se revoit bientôt, Gabriel, j'en suis sûr, pour continuer d'égrener. C'est passionnant et toujours avec vous, très, très joyeux souvenir. Je vous dis à bientôt.
Merci, Benoît. Merci beaucoup.
Quand on pose une question qui mérite attention, moi je ne fais pas celui qui réfléchit, pas d'embarras et pas de chichi. J'ai un truc épatant qui rend tout le monde content. Avec conviction, je réponds à la question par cette interrogation. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds ? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuisses de veau, mais dites-moi, dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds ? Et chauds ou froids, dites-moi pourquoi ? La première nuit des noces, on a une peur atroce. La petite mioche est là qui attend ce qui sera moche ou très épatant. Elle dit quand on la serre, est-ce que vous allez me faire ? De peur qu'elle défaille, donnez pas de détails, mais dis-lui quand elle tressaille. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds ? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les aime froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour Vigo, ou les escargots, ou les cuisseaux de veau, mais dites-moi, dites-moi. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds ? Et chauds ou froids, dites-moi pourquoi ? Que les artichauts froids sont meilleurs que chauds. Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour gigots ou les escargots ou les cuisseaux de veau. Mais dites-moi, dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds ? Et chauds ou froids, dites-moi pourquoi ?
Je ne sais pas si les artichauts figurent au menu de votre réveillon. En tout cas, vous avez maintenant comme ça plusieurs façons de les accommoder. C'était un extrait de l'opérette Conte Obligado de Raoul Moretti, un enregistrement rare, peu connu de Gabriel Baquet, réalisé d'ailleurs grâce à notre ami Patrice Campistron. Quant aux autres enregistrements que vous avez entendus ce matin, eh bien quelques-uns sont parus dans des compilations chez Universal Music, les autres sont dans toutes les bonnes discothèques. Voilà, Gabriel Baquet, j'étais très heureux qu'il passe en tout cas avec nous ce 24 décembre, et j'espère qu'il sera très bientôt ici de retour.
Thank you.
Et toutes les petites ballerines auront reconnu la valse de la Belle au bois dormant par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Jean Normandie. Je vous avais promis des valses. On a eu tout à l'heure celle d'Isoline de Messager et celle-ci qui nous rappelle également que la valse, ça n'est pas seulement l'affaire des compositeurs spécialisés comme Johann Strauss, mais aussi beaucoup l'affaire du répertoire de ballet où on en trouve quantité de petits trésors.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
On ira quand même dans un instant se balader du côté de Vienne et de la famille Strauss, mais auparavant, une petite archive, une archive de Noël. Vous savez, Noël, c'est un jour merveilleux, le jour de la joie, le jour des cadeaux, mais c'est aussi un jour d'histoire triste. On pense à la petite fille aux allumettes, on pense au début du film La vie est belle, où tout se déglingue le soir de Noël. Et je vous ai trouvé, moi, une archive de Marie Dubas, c'est la prière de la Charlotte, un monologue du début du XXe siècle de Jehan Rictus. Alors là, c'est vraiment un Noël très, très, très triste. Et pourtant, Marie Dubas l'avait créé d'ailleurs au milieu d'une revue à grand spectacle, tout d'un coup, un moment d'émotion, un moment extrêmement prenant, interprété par cette grande artiste le 15 novembre 1933.
Gardez-moi ça, cette espèce de bande de fourneaux. Ça vous bouscule, ça vous demanderait seulement pas pardon. Vadrouet, Fauchemann. Et purée! Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur, personne n'y fera attention. Oh, tenez yeux, tenez, c'est la fin de poivron. Ah, tout chahute, tout flambe, tout reluit. Les restaurants, les bistrots, ils ont la permission de la nuit. Tout chacun pense qu'il y a croustillé. Il y a plein de monde dans les rôtisseries, les épicemars, les charcuteries. Est-ce que ça sent bon le boudin grillé? Écurie, vous avez rien dû avoir friot, Jésus et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue, où depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure, une fille perdue, c'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâchée qu'une fille d'amour, pleine de péché, vous conste ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères. N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâchés? Allez, bing, là, on me bouscule avec des litres, des pains de 4 litres, des assiettes d'huit. Mais regardez-moi cette espèce de chameau! Oh! Oh, pardon, excuse, Vierge Marie. Là que j'ai cordé un vilain mot. C'est vrai que j'ai quitté de chez nous. Mais c'était que la dèche et les coups. C'était un vrai enfer, Sainte Vierge. Et soit dit, sans être une effrontée, vous-même, y seriez pas restée. Eh ben, c'est pas des boniments. C'est vrai, je vous le jure, Vierge Marie. Malgré comme ça que j'ai fait la vie, j'ai pensé à vous bien souvent. Je revois votre belle robe bleue, votre voile, même qu'il était piqué d'étoiles. Votre belle couronne d'or sur la tête. votre petit trésor sur les bras. Eh bien, si vous vouliez, Sainte Vierge, faire ce soir quelque chose pour moi, pour le temps que je n'étais pas une impie, vous n'avez qu'à lever le petit doigt et pas vous occuper du reste. Oh, je vous demande pas des choses pas honnêtes. Faites seulement que je trouve et ramasse un porte-monnaie avec galette, perdu par un de ces mufs qui passe. À moi plutôt qu'au balayeur. Ou alors, si vous voulez pas, vous pouvez pas, Vierge Marie, vous allez me trouver bien hardi. Alors faites-moi tout de suite sauter le pas et puis emmenez-moi avec vous. Prenez-moi dans le paradis où ce qui fait chaud, ce qui fait doux, où plus jamais je ferai la vie. Oh oui, emmenez-moi, dites. Emmenez-moi avant que la nuit soit passée, que je sois encore ramassée. Emmenez-moi, dites, je vous en prie. J'en peux plus de grelotter. Mais allumez mes mains gercées, mes petits souliers découverts. J'ai toujours mon costume d'été que je fais teindre en noir pour l'hiver. Oh oui, oh oui, emmenez-moi, dites, emmenez-moi. Et comme il doit y avoir du chemin, si des fois vous vous sentiez là, Vierge Marie pleine de grâce, de porter à bras notre Seigneur, un enfant c'est lourd à la fin, vous me le repasserez un moment, et puis moi je le porterai à mon tour, sans le laisser tomber par terre, comme je faisais chez mes parents, la petite maman dans les faubourgs, quand je trimballais mes petits frères. Vierge Marie pleine de grâce, vous qui êtes bénie entre toutes les femmes, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs.
Ça va, vous êtes bien plombé? Pas comme ça, vous penserez aux malheureux ce soir. C'était Marie Dubas dans la prière de la Charlotte avec l'orchestre de Pierre Chagnon. Mais je vous l'ai promis, on finit avec un enchantement viennois. C'est l'extraordinaire Libellule, une polka mazurka de Joseph Strauss dans l'enregistrement sublime de l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Carlos Kleiber. La libellule de Joseph Strauss, le petit frère de Johann, est une véritable merveille d'interprétation avec ce frémissement un peu sur place, vous savez, des ailes de la libellule qu'on entend sous la direction de Carlos Kleiber. C'est un enregistrement de concert du Nouvel An et vous savez d'ailleurs que le concert, il approche. Ce sera dans à peu près une semaine que vous pourrez retrouver cette année Gustavo Dudamel à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Armingue, réalisation Christine Amado. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain pour la toute dernière émission de l'année. Bon week-end à tous.